Table 14. Vendredi 25 juin 2021, 8h30, hangar B, Maguire Air Force Base. Rencontre du troisième type, vraiment? De retour de l'interview, Victor hésite entre colère et fou rire. Dans l'ignorance du lendemain, l'écrivain veut consigner froidement, en un long catalogue, ce qui se passe dans ce hangar. Hangar est un mot si bizarre. Pas loin de hagard, de hasard. Il a sorti son carnet, son stylo. Il tente de s'abstraire des cris, du bruit. Il prend des notes. Épuisement d'un lieu improbable. Mais non. Pourquoi marcher à l'ombre de Pérec? Pourquoi ne s'affranchit-il jamais des influences des figures tutélaires? Pourquoi, quand il ne craint pas d'être un imposteur, n'est-il qu'un gamin en quête d'adoubement? Posément, il inscrit « Mode avion ». La date, le 11 mars 2021. Il y a beaucoup de choses dans ce hangar. Par exemple, une centaine de tentes ocre, un hôpital de campagne, des rangées de longues tables, un terrain de basket improvisé, des dizaines de préfabriqués, des toilettes publiques, des barrières métalliques sur deux rangs, un centre de renseignement sans personne pour renseigner, un espace œcuménique signalé par un panneau en six langues, quatre fontaines à eau et bien d'autres choses encore. Le temps, trop chaud, trop humide pour la saison. Esquisse d'un inventaire de choses strictement visibles. D'abord, des lettres de l'alphabet de A à E sur l'un des murs du hangar. Un H majuscule pour hôpital. Les mots Air France sur la pochette des stewards et des hôtesses, des marques sur les vêtements des passagers, US Air Force, au sol, danger, high voltage, sur des boîtiers électriques, des slogans sur les murs, aim high, flying win, semper fi, la devise de l'US Air Force, we are looking for a few good men. Victor écrit, sans hâte, mécaniquement. Ayant beaucoup lu, traduit et trop de niaiseries derrière des joliesses, il trouve indécent d'imposer au monde une ânerie de plus. Il s'en moque bien qu'une prose flamboyante jaillisse du seul déplacement de la plume sur la page. Il ne croit pas être tout puissant face à la phrase. Il n'est pas question qu'il ferme les paupières pour regarder les yeux ouverts, ou qu'en ce lieu sans âme, il se dérobe au monde pour y graver son propre égarement. Et d'ailleurs, il se méfie des métaphores. La guerre de Troie a sûrement commencé comme ça. Il sait malgré tout qu'il suffira qu'une de ses phrases soit plus intelligente que lui pour que ce miracle fasse de lui un écrivain. Victor observe toutes ses existences éparpillées, toutes ses anxiétés mouvantes dans la boîte de pétri démesurée qu'est le hangar. Quel drôle de mot, décidément. Sans savoir à laquelle s'attacher. Il s'abandonne à la fascination d'autres vies que la sienne. Il voudrait en choisir une, trouver les mots justes pour raconter cette créature et parvenir à croire qu'il s'en est approché assez pour ne pas la trahir. Puis passer à une autre. Et une autre. Trois personnages? Sept? Vingt? Combien de récits simultanés un lecteur consentirait-il à suivre? À sa table, numéroté 14, outre quelques passagers, il y a le commandant de bord. À Victor, l'homme rappelle son père. Les mêmes yeux vert-gris, le même nez aquilin, les mêmes golfes profonds sur les tempes qui finiront par gagner leur bataille sur les cheveux drus et gris, le torse vigoureux. Instinctivement, l'écrivain porte la main à sa poche et prouve le contact lisse de la briquette rouge. Dans son portefeuille, Victor conserve aussi une photographie de ce père disparu, soustraite à un album de cette époque où il y en avait, où trop de photos n'avaient pas tué la photo. L'homme a 20 ans, un sourire conquérant, un regard droit. Un jour, il a dit à son fils en riant, « J'étais jeune dans ce temps-là, je ne sais pas à quel moment tout a commencé à déraper. » Oui, dans la lumière de l'aube, le commandant Markel ressemble à ce père à qui Victor ressemble si peu. La veille encore, L'uniforme lui a valu d'attirer les plus angoissés, que le bleu Air France rassurait, ou les plus irrités en quête d'un fautif. Mais il n'est plus l'objet de toutes les hostilités. Chacun, en le voyant partager l'exaspération générale, a fini par admettre qu'il ne bénéficie d'aucun traitement de faveur, n'a pas accès à la moindre information privilégiée. Pour en faire la démonstration, ou par simple confort, il s'est changé pour adopter un costume de ville. Au sol, David Markle n'est plus seul maître après Dieu, mais un simple type aimable qu'on en vient à plaindre, un général Dumouriez abandonné par ses troupes, en plus sympathique tout de même. Au matin, avec une dizaine d'autres passagers et sans explication aucune, il a dû passer un panel d'examens médicaux. Table 14, il y a aussi ce très grand noir aux beaux yeux profonds et mélancoliques. Ses cheveux coupés courts suivent des motifs géométriques, dignes des pavages de l'Alhambra. Il prononce « Johnny » pour « Journey »,« You are » pour « You are »,« Vision » pour « Vision ». Un Nigérian, guitariste et chanteur. Il a beau avoir un concert le lendemain soir dans une salle de Brooklyn, il a compris qu'il ne servait à rien d'insister et il a cessé de protester, lui aussi. Il a malgré tout récupéré sa Taylor 12 cordes, restée dans le coffre en cabine, et il joue, il compose une chanson au rythme doux. « I remember your eyes of yesterday, the way you smiled in a dazzling way. » La guitare rend un son riche et rond, la voix est rauque et chaude. Un garçon mince, le nom d'artiste qu'il s'est donné lui sied bien, il sourit à Victor. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté acoustique, sans effet. Il plaque un accord et reprend « But beautiful men in uniform forbid you. »« Beautiful men in uniforms ?» demande Victor en désignant les soldats qui gardent les portes. « Oui, ce sera sûrement mon titre. » Et il reprend, presque à voix basse, « The way to the light, way to the light, way to the light. » Au bout de la table, un murmure « Ton nom seul est mon ennemi. » Et Victor reconnaît Shakespeare aussitôt. « Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. » Juliette Capulet est ici. C'est une toute jeune fille. Elle répète son texte. « Qu'est-ce qu'un Montaigu ? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu'il possède. Intense jusque dans l'hésitation, elle sait qu'elle saura pleurer lorsqu'il le faudra. « L'audition est la semaine prochaine, » dit-elle à Victor. « Ils vont bien nous laisser sortir quand ils auront fait les tests. Ce sont bien des tests qu'ils nous font, n'est-ce pas ? On ne peut pas retenir des gens comme ça, c'est un pays libre, il y a des lois tout de même. » « Oui, il y a des lois. » dit une jeune femme au trait fin, à la peau noire, aux cheveux ramenés en arrière par une barrette d'argent. L'avocate a rassemblé 50 signatures pour une class action, portant sur une demi-douzaine de plaintes, arrestation arbitraire, détention discrétionnaire, confiscation illégale de biens, refus d'accès à un conseil juridique pour plus de 48 heures, etc. Combien facturer chaque minute qui s'écoule sans qu'elle puisse joindre son cabinet ? Comment chiffrer sa propre douleur de ne pouvoir entendre la voix d'Abby ? De le croire fou d'inquiétude. Chiffrer à seulement 2000 dollars par jour et par personne les dommages et intérêts de la rétention, n'est-ce pas un cadeau à l'US Air Force et au gouvernement? C'est quoi l'histoire déjà? Ah oui. Le diable entre chez un avocat et lui dit « Bonjour, je suis le diable, j'ai un marché à vous proposer. » « Je vous écoute. Je vais faire de vous l'avocat le plus riche du monde. » En échange, vous me donnerez votre âme, l'âme de vos parents, celle de vos enfants et celle de vos 5 meilleurs amis. » L'avocat le regarde d'un air étonné et dit « D'accord. Où est le piège ?» La jeune femme grimace. Non, vraiment, elle n'est pas l'ignoble bonhomme de cette blague. Mais dans ce monde-là, il faut frapper au portefeuille. Ils ne comprennent que ça. De nouveau, elle emprunte à une petite fille une feuille et un feutre de couleur. De nouveau, elle rédige une lettre. La mère de l'enfant, une jeune femme blonde, hésite. « Mon mari travaille pour l'armée, je ne voudrais pas lui créer d'ennuis. » Au contraire, madame, vous m'avez bien dit que votre mari était un héros de guerre, qu'il a été blessé au combat. Cela le rend intouchable, et de plus, en signant ce document de class action, vous rendez impossible à l'armée de l'intimider, de le menacer. Ce serait une entrave de trop à la justice. Unis, nous sommes plus forts. Nous ne pouvons pas rester enfermés plus longtemps. Vous avez bien deux enfants avec vous, n'est-ce pas? Les dommages psychologiques seront importants, surtout pour eux. Des dommages psychologiques? Reprend la femme. Elle a un regard vers son petit garçon qui ne réclame plus sa tablette et s'est assoupi sur la table, et vers sa fille qui griffonne des êtres sombres, étranges, aux longs membres fins et effrayants, rature de traits noirs les personnages du dessin. À la table 14, et Victor l'a bien vu, il y a surtout cette fille, la trentaine, brune, fine comme une liane, et il s'en veut aussitôt du cliché. Elle lui rappelle cette autre fille, croisée quelques années aux assises de la traduction, celle qu'il avait transpercée et qu'il n'a jamais retrouvée. La nostalgie est une scélérate. Elle laisse croire que la vie a du sens. Victor s'assied à côté d'elle, aimanté. Le propre de l'attraction est de vouloir toujours réduire les distances. Il tente d'échanger quelques mots. Non, elle est comme tout le monde, elle ne sait rien. Elle fait une moue de lassitude et retourne à son livre. Elle est accompagnée. Un homme, la soixantaine élégante qui ne saurait être son père. Victor l'a deviné à sa prévenance attentive et aussi à son regard lorsqu'il a tenté d'engager la conversation avec elle. Un soupçon d'inquiétude animale qu'il n'a su cacher. Il se présente. Un architecte. Victor connaît son nom, mais pas son travail. Cet univers de béton et de verre l'ennuie. Parfois, lors d'une traduction, un terme technique, architrave, bardeau, apparaît, qu'il doit rechercher et oublie aussitôt. Victor observe l'homme et, sans le trouver laid, il voit le vieillard percé déjà sur ses mains à la peau fine, sur son front ridé. Il n'a sans doute que l'âge qu'elle lui prête. Que lui trouve-t-elle? Que peut-il connaître du désir d'une femme pour un homme? L'homme se lève, demande à la jeune femme si elle désire un café, puisque l'armée a installé des distributeurs. Elle secoue la tête et il s'éloigne sans hâte. Victor devine que c'est une élégance, une manière de la laisser respirer. Ce huis clos est suffisamment oppressant pour qu'il ne l'étouffe pas de son assiduité. Tiens, le livre qu'elle feuillette est de Colsey. Victor ne l'a pas lu. C'est bien ? Demande Victor. Quoi ? Ce Colsey. Oui, répond-elle, mais moins que disgrâce. Je suis d'accord, répond Victor. C'est son meilleur, n'est-ce pas ? Un chef-d'œuvre, confirme-t-elle. Et elle se détourne de lui. Victor comprend qu'il l'ennuie. Il n'insiste pas, reprend son carnet, note sans ironie le mot « disgrâce ».